On va commencer par lire un passage qui sera notre texte de base en Éphésiens chapitre 4. Mais je le dis tout de suite, pendant que vous cherchez ce passage en Éphésiens chapitre 4, c'est un message que je vais être obligé de faire en deux parties. Et il y avait beaucoup trop à dire sur la communication. Et il y a encore beaucoup d'autres choses qui mériteraient d'être dites même après ces deux prédications. Mais on va, si tout le monde a trouvé sa place, Éphésiens chapitre 4, on va lire d'abord le verset 17, et ensuite on va sauter au verset 20, et ensuite verset 25 et suivant. Verset 17, pour prendre un peu le contexte, il dit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Bon, parce que les versets auparavant, il nous dit. Qu'est-ce que font justement les inconvertis? Il dit, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est ce qu'il rappelle au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, ce n'est pas parce que j'ai dit, voici comment fait le monde, que vous devez continuer, vous, à faire pareil, même si vous le faisiez auparavant. Et là, verset 25, parce qu'il fallait prendre un peu ce contexte pour voir pourquoi il commence avec c'est pourquoi. Le verset 25, il dit, c'est pourquoi. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce envers ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et on s'arrêtera là pour ce matin. Et si ce n'est pour l'instant même de rien que de reprendre ce verset 25, il dit c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et ensuite, il poursuit avec les versets suivants en nous disant comment on peut mettre en pratique cette vérité. Et dans l'ensemble, il fait référence ici à la communication, à la manière que nous parlons les uns aux autres, à la façon qu'on se parle. La communication, ça a toujours été l'un des problèmes qui revient régulièrement dans les familles. J'ai encore vu dans la préparation de ce message une étude qui disait que dans 86% des divorces, la communication, une mauvaise communication, est mentionnée comme étant l'un des problèmes principaux qui se trouvaient dans ce couple. Une mauvaise communication entre le mari et sa femme, ainsi qu'une mauvaise communication entre les parents et les enfants, et vice-versa. Soyons clairs tout de suite que quand nous parlons de communication, nous parlons bien plus que de partager juste des paroles. Ça, c'est un dialogue. C'est pas nécessairement une communication. On parle bien plus que de juste le fait de parler l'un à l'autre. Comme notre verset nous le rappelle, c'est de prendre le temps de parler, certes, mais surtout de s'assurer de parler correctement. Parce qu'il dit, renoncez au mensonge, mais que chacun de vous parle, mais pas n'importe quoi, selon la vérité à son prochain. Quand nous parlons de communication, nous parlons du fait de pouvoir faire comprendre à l'autre nos pensées, mais aussi nos émotions, ce que nous ressentons, et que nous sommes également prêts à écouter ce que l'autre a à dire. Parce que quand on parle de communication, le parler et l'écoute sont deux points essentiels, pas juste le parler. Il y a beaucoup d'analogies qui sont utilisées pour aider à comprendre comment fonctionne une famille. Et pour ce matin, pensons à la famille. On va utiliser l'une de ces analogies comme un moteur. Ça va être moteur de voiture ou un autre, peu importe. Mais il faut que certaines pièces soit bien attaché pour que le moteur fonctionne bien. Hein, il y a des joints qui empêchent des fuites et les boulons qui sont bien serrés, que tout reste ensemble malgré tout le stress et l'effort fourni par le moteur. C'est essentiel. On ne veut pas avoir peur que tout éclate juste parce qu'on pousse le moteur un peu plus fort que d'habitude. Dans le couple, quand on est unis dans le Seigneur, nous avons cette force qui nous vient de Dieu lui-même, à nous aider à rester unis malgré les efforts et les problèmes de la vie. Nous n'avons pas à avoir peur que tout éclate dans notre couple ou avec nos enfants juste parce que nous sommes à l'instant là sous beaucoup de pression et de stress, parce que notre force est dans le Seigneur, son esprit, son salut, sa parole qui nous préserve et qui nous garde, c'est lui qui fait que c'est solide dans son ensemble. Marc 19 nous dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, que c'est Dieu qui a mis ensemble. C'est Dieu qui également qui garde ce couple ensemble. Mais pour qu'un moteur fonctionne correctement, il ne faut pas seulement que tout soit bien serré et solide, n'est-ce pas? Il faut également qu'il soit bien huilé. Il n'y a rien de pire que de rouler comme là, en vacances et de voir le voyant d'huile s'allumer pendant qu'on roule. Si on ne s'arrête pas, il ne faut pas être étonné si on voit le voyant de cadran pour le moteur qui chauffe augmenter de plus en plus. Si on ne s'arrête toujours pas, la fumée qui va sortir du capot. Et si on ne s'arrête toujours pas, là c'est catastrophe. Généralement, le moteur il bloque. Une fois que le moteur est bloqué, on ne peut plus rien faire. Il faut le changer. Tout ça parce qu'il manquait de l'huile. Et pour la famille, la communication, c'est comme l'huile de ce moteur. C'est ce qui fait que toutes les pièces fonctionnent bien, tous les membres de la famille marchent bien ensemble et qu'il n'y a pas de friction entre qui que ce soit. Une bonne communication et de bonnes conversations nous aident à comprendre ce qui se passe dans la vie de chacun au sein de notre foyer. Le fait est, la grande majorité de la population ne sait pas comment bien communiquer. Ils pensent que bien communiquer, c'est de faire comprendre à l'autre ce que moi je ressens, et ils oublient l'autre partie de bien vouloir prendre le temps d'écouter pour comprendre ce que l'autre ressent. Même parmi les couples chrétiens, nous avons toujours quelque chose à apprendre dans le domaine de la communication. Et vous savez, il n'y a pas qu'une seule façon de communiquer. Il est vrai que nous allons parler de la communication verbale ce matin, mais n'oublions pas que nous communiquons beaucoup par d'autres moyens. Quand on donne de notre temps à une personne, ça fait partie de la communication. Par exemple, un parent qui prend le temps de jouer avec son enfant, c'est en train de dire à cet enfant, j'avais quelque chose à faire, mais j'arrête ce que j'avais à faire pour prendre du temps avec toi. Quand le mari voit que sa femme passe par un moment difficile, il n'a pas besoin de parler parfois, mais qu'il passe du temps avec lui, avec elle. Et ou qu'il a préparé pour une soirée spéciale où il dit, quelqu'un s'occupe des enfants, j'ai fait une réservation à un restaurant pour que tu puisses souffler un peu, on a du temps juste entre toi et moi. Ce n'était pas pour parler de quelque chose de bien spécifique, mais quand on donne de notre temps à une personne, ça en dit beaucoup. Quand on n'essaye pas nécessairement de donner une réponse, mais quand on est présent, qu'on s'assoit avec cette personne, qu'on communique, qu'on comprend et qu'on aime cette personne et qu'on veut l'aider. Alors, ce n'est pas seulement l'autre façon. On communique également quand on offre, on donne des cadeaux ou autre chose à l'autre. Il n'y a souvent pas beaucoup de paroles qui sont échangées, mais ce n'est pas le cadeau en lui-même qui est le plus important. Mais on est en train de dire, en offrant ce cadeau à cette personne, je te veux du bien, je t'aime, tu es important pour moi, je ne te prends pas à la légère, etc., etc. On communique également à travers le toucher, de prendre sa main, de mettre sa main sur son épaule, parfois on ne dit rien, pas de parole. Mais on peut la serrer dans ses bras, et ça en dit beaucoup. Les toucher que je ne ferai pas avec d'autres personnes, mais qui en disent long à ma femme ou même avec mes enfants. Combien de fois est-ce que j'ai pris mon enfant dans mes bras, on était tous les deux assis, et elle pleurait, puis je la tenais. On avait déjà discuté, je savais pas quoi d'autre dire. Je la serrais dans mes bras. On communique de façon très variée et différente, de différentes façons, mais il est évident que la façon la plus dominante, c'est quand même celui de notre bouche, de communiquer avec nos paroles. Et en utilisant notre passage en Éphésiens, j'aimerais qu'on regarde à au moins trois choses concernant notre communication dans la famille, même si, comme je l'ai dit ce matin, on n'en verra que la première. Et Dieu voulant, on verra les deux autres points la semaine prochaine. Mais j'aimerais qu'on voit, pour cette première chose, certaines choses que nous devons éliminer de notre langage. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on verra certaines choses que nous devons intégrer dans notre langage, pour ensuite terminer avec certaines choses ou certaines promesses qu'on doit s'approprier. Mais voyons juste ce premier point pour ce matin, des choses que nous devons éliminer de notre langage, éliminer certains problèmes. Le verset 25, il est très clair, il parle du mensonge. Déjà éliminer celui-là, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et ça devrait être logique, et même presque automatique, de comprendre que si nous voulons avoir une bonne communication et une bonne communion donc avec l'un l'autre, il faut qu'on puisse se faire confiance. Il faut qu'on puisse savoir ce que l'autre nous dit est sincère et vrai. Qu'on n'a pas besoin de se demander est-ce que cette personne est en train de me mentir ou non. Et nous devons faire ce choix de ne jamais, jamais, jamais mentir. Sans aucune exception, sous aucun prétexte. Le mensonge ne sera jamais une bonne solution. Le mensonge est quelque chose qui malheureusement est imprégné dans notre nature. Ça nous vient beaucoup trop facilement, même plus facilement qu'on aimerait l'admettre. Psaume 58, versets 2 et 4 nous dit, est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Donc il dit, nous, ça leur vient, c'est inné, depuis leur naissance. C'est quelque chose qui nous vient beaucoup trop facilement que de pouvoir mentir. Le mensonge est quelque chose de naturel chez l'homme, mais pour le chrétien, Dieu nous dit qu'il nous a donné une nouvelle nature. Cette nouvelle nature devrait désirer la vérité au-dessus de celui du mensonge. Mais de la même manière que nous pouvons parler sous différentes façons, ben, le mensonge nous vient sous différentes formes aussi, n'est-ce pas? Il y a le mensonge qui est évident, hein, quand on dit quelque chose qui est complètement contraire à la vérité, qui est flagrant. La maman qui demande à son fils, as-tu mangé le dernier morceau de gâteau? Il dit, ah, non, 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 alors qu'il y a encore des miettes sur le... C'est pas moi. Il y a le mensonge plus difficile à voir, parce qu'on y incorpore une bonne dose de vérité avec le mensonge, hein, ce qu'on appelle une demi-vérité parfois, qui est en fait un mensonge complet. Je compare cela à un verre empoisonné. Tu peux mettre juste 1% de poison dans 99% d'eau ou une autre boisson tout à fait potable. Mais est-ce que vous allez boire ce verre quand même avec ce 1% de poison dedans? Est-ce qu'on va pouvoir prendre une cuillère et enlever le 1% de poison qui est mélangé dans ce verre? Non, on est obligé de quoi? On est obligé de jeter le verre entier, n'est-ce pas? Ce n'est pas la quantité de mensonges qui fait que c'est grave ou non, c'est le fait que le mensonge soit présent, tout simplement. Donc une demi-vérité, c'est un mensonge complet quand même. Et généralement, je dirais, c'est le mensonge qui est le plus souvent utilisé. Parce qu'on espère que justement, la partie qui est vraie fera en sorte que la partie qui n'est pas vraie ne se voit pas, n'est pas aussi facilement reconnaissable. Mais il y a également le mensonge d'omission. On ne va pas dire une fausseté, mais on reste silencieux au lieu de dire la vérité aussi. Le grand problème avec le mensonge, surtout dans le domaine du couple et de la famille, c'est qu'un mensonge ne reste jamais solitaire et va toujours, sans exception, produire d'autres mensonges ainsi qu'un manque de confiance envers la personne qui nous a menti. Toujours. Il ne peut pas en être autrement. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus cette personne, qu'on ne désire plus faire des choses avec elle. Mais maintenant, le doute va s'installer. La prochaine fois que cette personne va me dire ceci ou cela, est-ce qu'il ou elle me ment comme la dernière fois? Est-ce que c'est supposé être une demi-vérité ou... Le doute s'est installé. Une fois qu'on a commencé à mentir, il est très difficile de regagner cette confiance. Alors, et comment avoir une bonne communion dans notre couple, dans notre famille, dans ces circonstances-là, si on n'a pas choisi de renoncer au mensonge? Et si nous voulons avoir une bonne communication, avoir une communion saine dans notre foyer, dans notre famille, il va de soi qu'on doit pouvoir se faire confiance, peu importe le sujet duquel on parle, peu importe ce que disent les autres personnes. Je sais que je peux faire confiance aux membres de ma famille, parce que le mensonge ne s'y trouve pas. Mais c'est ce qu'on aimerait avoir, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'on élimine tout doute, tout mensonge de notre langage. N'est-ce pas là l'une des raisons pourquoi on peut placer notre foi en Dieu? Pourquoi nous pouvons faire confiance en Dieu? C'est parce que nous savons que Dieu, lui, ne peut mentir. Que quand Dieu dit quelque chose, on n'a jamais à nous demander est-ce que Dieu nous dit la vérité ou est-ce que Dieu nous dit seulement une partie de vérité, mais il nous cache autre chose. Non, si Dieu nous dit telle chose est comme ceci ou comme cela, si tu fais ceci, je te promets que on n'a jamais à mettre en doute les promesses de Dieu, la personne de Dieu. Dieu n'est pas menteur, il n'est pas homme ou fils de l'homme pour mentir comme l'homme. Et c'est ce que nous devrions pouvoir trouver et retrouver dans nos foyers, dans nos familles. Que le mari envers la femme envers son mari, les parents envers les enfants entre eux et les enfants envers leurs parents, qui n'a aucun, à aucun moment, ne puisse se demander, je me demande s'ils sont en train de me dire la vérité ou non. Je ne devrais jamais avoir besoin de dire à ma femme ou à mes enfants, je te promets, c'est la vérité. Je ne devrais pas avoir besoin de dire cela. Je devrais pouvoir leur affirmer quelque chose. Ils savent automatiquement que c'est la vérité parce que je renonce au mensonge. Je refuse de mentir à ma famille. Il faut qu'on élimine tous ces doutes. Ils devraient avoir l'habitude que je dise toujours la vérité et rien que la vérité. Vous savez, l'une des façons que ma femme et mes enfants savent qu'ils peuvent me faire confiance, que je ne leur mens pas, c'est que je leur dise la vérité, alors que ça me met moi dans une situation difficile de le faire. Quand je dois avouer une faute, par exemple, je dois m'humilier un peu, dire ah, oui, j'avais tort, j'aurais pas dû. Au lieu d'essayer d'excuser ou de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, ça les aide. Ah ben, ils auraient pu essayer de cacher ou d'excuser ou trouver. Mais il me dit la vérité, alors que ça le met, lui, dans une situation difficile. Que, j'avoue, j'avais tort, ou j'avais, même, je peux dire, j'avais mal compris. Ou encore, quand il voit que je n'essaie pas de blâmer quelqu'un d'autre, ben c'est lui, il m'a mal expliqué. Non. Ou quand il voit que j'accepte mes responsabilités de dire la vérité, alors que ça me demande une certaine dose d'humilité de ma part, ben, quand je leur affirme d'autres vérités plus tard, ils disent, ça doit être la vérité parce que papa, il ne va pas me mentir. Il m'a dit la vérité alors que ça ce n'était pas bien pour lui de le dire dans le sens que ça ne l'a pas élevé lui. Il a dû montrer l'humilité pour le faire, mais il l'a fait quand même. Alors, ils apprennent qu'ils peuvent me croire, que je ne leur cache pas la vérité juste parce que la vérité peut être embarrassante pour moi. Quand ma femme ou mes enfants me demandent si ça va, si c'est quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas obligé de tout raconter. Mais je peux dire quelque chose dans le style, non, ça ne va pas en ce moment, mais t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi, et ça va aller mieux, et je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Mais ce que je n'ai pas le droit de dire, c'est de faire semblant que ça va alors que ça ne va pas. C'est un mensonge. On a le droit de leur dire que ça ne va pas. Tout comme on a le droit de dire qu'on ne va pas nécessairement en parler. Mais on n'a pas le droit de mentir. Le mensonge n'est pas juste quelque chose qu'on doit essayer d'éviter de faire au maximum. Le mensonge est quelque chose qu'on doit éliminer. Pour Suzanne et moi, on s'est dit au tout début, quand on s'est rencontrés, même avant qu'on se marie, on n'était encore que fiancés. On dit, le mensonge et le divorce sont deux choses qui ne seront jamais une option dans notre vie, dans notre couple. Parce qu'il faut au moins commencer par au moins faire ce choix. Et ensuite, il faut travailler pour le mettre en place. On dit, mais le mensonge et le divorce sont deux choses qui ne sont, font même pas partie de notre conversation. Si on a un problème, il faut qu'on se le dise. Si on a un problème entre nous, il faut qu'on y travaille pour réparer ce problème. Mais le divorce, c'est pas une solution. Et de pouvoir te cacher quelque chose n'est pas une solution non plus. Et quand on élimine ces deux possibilités, il ne reste plus que la vérité et la promesse qu'on s'est faite jusqu'à ce que la mort nous sépare et rien d'autre. Et comme on a vu dans le passage de Psaume 58, le mensonge est quelque chose d'inné dans chacun d'entre nous. Alors comprenons bien qu'il faudra faire un effort bien plus grand que de simplement dire « Bon, aujourd'hui je choisis que je ne mentirai plus » et puis au bout d'une baguette magique, tout à coup on ne ment plus. Ça ne marche pas comme ça non plus. On doit apprendre à ne dire que la vérité. On doit se laisser enseigner pour combattre ce désir qui est naturel que de mentir. Parce que l'une des raisons principales de pourquoi on est si facilement prêt à mentir, c'est pour se protéger soi. On a peur de comment on va être vu, on a peur de faire face aux responsabilités que ça va amener si on avoue et qu'on dise la vérité. Éliminer le mensonge n'est pas quelque chose de facile et encore moins d'automatique, mais ça demandera un effort continuel. Ainsi que l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Suis-je vraiment en train d'aimer ma femme ou mes enfants si je leur cache la vérité, si je choisis de leur mentir, si je choisis de ne pas dire la vérité à ma famille? Suis-je vraiment en train de mettre ma femme en premier avant moi-même si je choisis de lui mentir? Suis-je vraiment en train de mettre Dieu en premier dans ma vie si je choisis de mentir tout en sachant que Dieu a en horreur le mensonge, qui est le contraire de qui il est, lui qui est la vérité et la vie. Suis-je vraiment en train de mettre ma famille et même Dieu en premier quand je choisis de mentir? Vous savez, l'un des plus gros mensonges qu'on se dit à soi-même, pour excuser le fait qu'on mente à sa femme ou à ses enfants, c'est qu'on se dit « je mens pour là où les protéger ». Je ne veux pas qu'il ou elle s'inquiète. Mais cela en lui-même est un mensonge. Le mensonge ne sera jamais une meilleure solution que la vérité. Jamais. Rappelez-vous qu'on est en train de parler spécifiquement de la communication entre le mari et la femme, et entre les parents envers les enfants, et les enfants entre eux, et les enfants vers les parents. Le mensonge ne sera jamais une meilleure solution que la vérité pour que nous puissions avoir une communication saine, pour avoir une communion saine dans notre foyer. Ce mot « renoncer » dans ce verset 25 dit « c'est pourquoi renoncer au mensonge » est un mot qui veut littéralement dire de lancer de côté. Comme quand on jette quelque chose qu'on ne veut plus. Il dit « jette-le, lance le mensonge loin de toi, renonce-y ». Mais notre passage en Éphésiens ne parle pas seulement du mensonge, et on pourrait continuer dans ce domaine toute la matinée, mais il mentionne encore deux autres choses par rapport à qu'on doit éliminer pour avoir une bonne communication dans notre foyer. On doit renoncer au mensonge, mais on doit également renoncer aux paroles mauvaises. Le verset 29 nous dit si, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communique une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est bien de ne pas mentir. Même beaucoup d'inconvertis seraient d'accord là-dessus, même si dans la foulée, ils le feront eux-mêmes. Mais sur le principe de la chose, beaucoup comprennent et acceptent, oui, c'est pas bien de mentir. Mais faisons également attention de la façon qu'on se parle l'un à l'autre. Pour avoir cette bonne communication, on doit éliminer certaines choses et les paroles mauvaises reviennent beaucoup trop facilement. Il dit, souvent, et je l'ai entendu dire, il dit, mais je lui ai dit la vérité, je ne lui ai pas menti. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu lui as dit, c'est comment tu le lui as dit. Quand tu dis la vérité et que tu rabaisses la personne, ce n'est pas une bonne communication. C'est pour ça que Dieu nous rappelle même au verset 15, notre passage en Éphésiens, on ne l'a pas lu, le verset 15, mais il nous dit, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef Christ. Professant, on dit la vérité dans l'amour. Ce n'est pas parce que ce que nous disons est vrai que c'est la vérité qu'on a le droit de le dire n'importe comment, qu'on a le droit de le dire avec arrogance, qu'on a le droit de le dire en manquant de respect envers l'autre. Juste parce que ce que nous disons est vrai, est juste, et que c'est la vérité, ça ne nous empêche pas qu'on doit le baigner dans un amour et le respect envers l'autre personne avec qui nous parlons. Comme on l'entend parfois dire, oh, mais moi je lui ai dit ces quatre vérités, n'est-ce pas? On comprend tout de suite que ce que cette personne a dit était peut-être vrai, mais qui ne l'a pas dit de façon très aimable. Ce n'est pas un langage, une communication qui aide à une communion saine. Ce mot « mauvaise parole », le mot « mauvaise », veut littéralement dire « pourri »,« corrompu ». C'est l'image, c'est un mot qu'ils utilisaient quand ils parlaient d'un fruit qui on laisse tel quel, qui commence à pourrir. Un langage pourri. Des paroles qui n'ont pas lieu d'être, des paroles qui sont contraires à l'édification et à l'encouragement. Nous devons toujours dire la vérité, oui. Mais la vérité elle-même n'est pas exempte de respect, de courtoisie, de tact, comme dans le passage en Éphésiens nous le dit au verset 15. Notre responsabilité et notre devoir de dire la vérité avec amour. Alors quand la vérité serait difficile à entendre aux oreilles de l'autre, parce que ça arrive souvent aussi, et parfois, je dis, je sais que tu n'as pas envie d'entendre ceci, mais je te ferai défaut si je te mentirais. Je me dois de te dire la vérité. Et parfois, quand la vérité est difficile à entendre, c'est à nous d'entourer cette vérité avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de tact, avec charité. Les paroles mauvaises, comme le mensonge, ne sont pas simplement à éviter, mais elles sont à éliminer de notre langage. Que notre habitude soit celui de dire la vérité, toujours la vérité, ainsi que d'avoir des paroles édifiantes et encourageantes. Et je dirais, là où c'est le plus difficile à faire, c'est quand nous avons été blessés, n'est-ce pas? On est en train de parler avec quelqu'un, quelque chose nous est arrivé avec cette personne nous a blessés, on s'est senti même peut-être attaqué. Alors, il nous est plus facile d'avoir recours aux paroles mauvaises, aux paroles blessantes. Des paroles, comme ce mot veut dire, pourries, qui ne seront jamais une solution et une aide dans la communication qu'on a. On peut parler avec vérité entre couples et avec les enfants. Et on doit dire des choses qui ne vont pas. Un parent va souvent dire des choses que l'enfant n'a pas envie d'entendre dans le cours de sa vie, alors qu'il grandit, s'il est en train de mûrir et que les parents sont en train de l'éduquer, de le corriger peut-être parfois. Il va entendre des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, mais elles ont besoin d'être dites quand même, mais pas n'importe comment. On peut dire des choses qui sont difficiles, mais pas à cause de la façon qu'elles sont dites. On peut dire qu'on n'est pas d'accord et partager avec l'autre des choses que lui ou elle fait spécifiquement qui n'est pas agréable, mais pas de façon blessante. Quand un couple se marie, ils croient se connaître, mais ils réalisent très vite qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas encore compris chez l'autre, qu'ils ne connaissaient pas de l'autre. Et ils apprennent vraiment à se connaître une fois qu'ils sont mariés. Ils doivent partager, ils doivent pouvoir se dire, tu vois, tu sais, cette manie que tu as, ça... ça m'agace, ou ce que tu ne fais pas là, j'aimerais que tu le fasses. Et on peut partager ces choses. Et parfois, ce sont des choses qui sont peut-être difficiles à en parler, mais ça ne devrait pas être à cause de la façon dont elles sont dites. Celui qui parle, ainsi que celui qui écoute et celui qui répond. Chacun doit parler avec vérité, dans la charité, avec amour et non avec des paroles mauvaises. Pourquoi est-ce qu'on a recours aux paroles mauvaises parfois? Pas seulement parce qu'on est blessé, mais d'avoir recours à des paroles que nous savons sont blessantes, mais on va les utiliser quand même. C'est justement parce qu'on sait qu'elles sont blessantes et on veut blesser. Parce que oui, on a peut-être été blessé nous-mêmes, ou c'est parfois, c'est pas seulement, parfois on a été déçu, parfois c'est notre ego qui en a pris un coup, et on veut juste rendre un peu l'appareil. Alors on a recours aux paroles blessantes, aux paroles mauvaises. Comment espérer avoir une bonne communication dans le couple et dans la famille si on ne fait pas le choix d'éliminer complètement les paroles mauvaises? Sans exception, jamais de paroles littéralement pourries. Et si jamais on faillit à cela, et notre chair, on retombe dans ce travers et on dit des choses qui n'avaient pas lieu d'être, surtout de la façon qu'elles ont été dites, c'est à nous d'être rapides à revenir et admettre notre tort et demander pardon. Peu importe si l'autre t'a blessé, peu importe si l'autre t'a demandé pardon ou non, c'est ma responsabilité. Je désire avoir une bonne communication et une communion saine. Je ferai le premier pas. Si on veut restaurer une bonne communion autour d'une bonne communication, il faut que les deux puissent savoir qu'ils peuvent se parler à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet, sans jamais avoir peur de comment l'autre va réagir. J'ai encore récemment aidé un couple dans une autre famille, dans une autre église, où justement la femme me disait. J'aimerais pouvoir lui parler de ceci ou cela, mais j'ai peur de comment il va réagir. Ça ne devrait jamais pouvoir exister dans un couple. Que la femme ait peur de comment son mari réagira, ou du mari avoir peur de comment sa femme réagira. Les paroles mauvaises entre eux ne devraient pas exister. Si elles n'existent pas, cette peur va diminuer énormément. Savez-vous quels sont les mots qui reviennent le plus quand un couple n'est pas content avec l'autre? Les mots toujours et les mots jamais. Tu fais toujours ceci ou tu ne fais jamais ce que tu devrais. On en revient à une forme de mensonge en voulant exagérer, en donnant l'impression que l'autre personne ne fait jamais comme il faut, en utilisant des mots extrêmes toujours et jamais. Ce sont les deux mots qui reviennent le plus souvent dans les communications. Quand l'un est blessé envers l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on est frustré, ce n'est pas parce qu'on est fatigué ou sous beaucoup de pression qu'on a le droit de parler à notre conjoint ou à nos enfants, et ni des enfants envers les parents, en leur manquant de respect. On doit toujours parler envers l'autre avec le même respect qu'on veut recevoir d'eux. Un parent peut parler avec autorité sans parler de façon à blesser. Pour avoir une bonne communication dans le foyer, personne ne doit avoir peur de dire la vérité, n'est-ce pas? Personne ne doit avoir peur d'entendre la vérité et personne ne doit jamais se demander si c'est la vérité. Notre passage en Éphésiens nous donne une dernière chose que nous devons éliminer de notre langage si nous voulons avoir une bonne communication dans le couple et dans la famille. Mais verset 31, je vais résumer cela aux mauvaises pensées. Parce que verset 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça fait deux fois qu'il mentionne la colère dans notre passage. Déjà dans le verset 26, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est une autre chose que ma femme et moi avons essayé de mettre en place assez rapidement. Que si, quand on a quelque chose contre l'autre, qu'on ne se couche pas ce soir-là sans avoir rétabli la chose. On se forçait à être obligé d'en parler et de résoudre quel que soit le problème avant qu'on ne s'endorme. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et L'amertume, comme il dit ici, l'animosité, la colère, etc., sont des choses qui peuvent ressortir dans notre langage, mais elles peuvent également ressortir dans nos actions. Parfois, on ne voit, on ne va rien dire et garder cette amertume dans notre cœur. Nous n'avons rien éliminé en faisant cela. Nous n'avons rien fait de plus que d'essayer de cacher quelque chose que nous savons va ressortir plus tard de toute façon. Et c'est pour cela que j'ai choisi de dire que nous devons éliminer les mauvaises pensées au lieu de prendre chaque chose mentionnée dans ce verset 31 les unes après les autres. Trop souvent, nous faisons l'erreur de croire que parce qu'on ne dit rien, qu'on a fait le plus gros du travail. Ah, c'est bon, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu en colère, j'ai pas dit de paroles mauvaises. On a réussi à se contrôler, mais ce n'est pas suffisant. Tout ce qu'on a fait est de garder les mauvais sentiments en nous. Et même si on ne les a pas exprimés à l'instant même, nous n'aurons pas une bonne communion avec notre famille, ni une communion honnête tant que ce n'est pas réglé. Si on pense une chose et qu'on en dit une autre, et on se tait pour faire croire que tout va bien, c'est de l'hypocrisie ainsi qu'une autre forme de mensonge. Quand Dieu veut qu'on parle avec amour, qu'on dise des paroles édifiantes et encourageantes, il va de soi que Dieu veut qu'on soit sincère. On ne peut pas avoir de l'amertume, de l'animosité, de la colère dans notre cœur et dire « Je t'aime, je t'apprécie, je loue le Seigneur pour toi, je te veux du bien, etc. » Je trouve intéressant que ce mot « amer » ici est un mot qui est utilisé pour parler du goût amer qu'avaient certains poisons. Et il serait bon pour nous de penser à l'amertume, à justement cela, un poison. Un poison qui va affecter notre langage, un poison qui va affecter nos actions et bien sûr notre communion. Le mot animosité est un mot qui parle d'être indigné ou de ne pas seulement être contre, mais ce mot parle d'être passionnément contre. Ça donne cette idée que c'est la personne qui refuse de lâcher prise, de lâcher l'affaire, refuse de laisser tomber tant que les choses ne sont pas comme lui ou elle veulent qu'elles soient. Parfois, pour avoir une bonne communication et communion dans le foyer, il faudra qu'on montre une certaine dose d'humilité au lieu de vouloir toujours avoir raison. Même quand on a raison, on n'est pas obligé de le montrer, de le prouver. On peut choisir de laisser tomber l'affaire pour le bien de la communication dans le couple. Je ne dis pas de ne pas le dire, mais dire une fois que ça a été dit. Pas besoin d'insister jusqu'à ce que l'autre voit les choses comme toi. Pour certaines choses, je ne dis pas tout, je dis pas pour tout. Vous voyez bien que toutes les choses mentionnées dans ce verset 31, elles ont toutes à voir avec le moi. L'amertume, on m'a fait du mal. L'animosité, je suis passionnément contre ceci ou cela, au lieu de rechercher la paix. La colère, le mot parle d'être rouge de colère, j'ai mal, on m'a fait une injustice, moi, moi, moi. La clameur, le mot à l'original, parle de hurler, de crier, tellement on est contre et on est en colère et on veut s'exprimer, mais pas d'une manière sereine. La calomnie, ce mot parle de parler dans le but de faire du mal. Ce mot calomnie ici parle de vouloir parler dans le but de blesser volontairement l'autre. C'est pas juste de créer des rumeurs, c'est de vouloir blesser avec nos paroles. Et la méchanceté, sous toutes ses formes, toutes des choses qu'on peut ressentir, mais dans le contexte de notre passage, il nous dit de ne pas nous parler les uns des autres avec toutes ces choses. Pas juste l'une de ces choses. Choisis celui qui te gêne le moins et enlève-le, mais qu'il faut toutes les enlever. Il le dit bien d'ailleurs. Il dit que à la fin de ce verset, toutes ces choses, cette liste, disparaissent du milieu de vous. Et on comprend que ce mot disparaît veut dire on ne les voit plus, on ne les entend plus, c'est comme si elles n'étaient jamais là et ne reviennent pas. C'est ça ce que ce mot disparaît veut dire. Mettez Dieu en premier. Et si vous mettez la bonté de Dieu en premier, vous savez que Dieu ne veut pas que vous vous parliez entre vous, encore moins dans votre foyer, avec amertume, avec méchanceté, avec colère, etc. Notre langage va changer. Non parce que nos émotions ont changé, mais parce que notre amour pour Dieu est plus fort que mes émotions et mes sentiments personnels. L'amour que je dis avoir pour Dieu n'est pas juste Des paroles que je dis en l'air, c'est vraiment quelque chose qui change ma façon de vivre. Personne n'aime qu'on leur mente, n'est-ce pas? Ni qu'on leur parle de façon irrespectueuse, ou qu'on leur parle sans penser ce qu'on dit. Personne n'aime parler avec une personne qui se met facilement en colère, qui prend au premier degré tout ce qu'on dit, ou qui se fait des idées. Et personne n'aime parler à quelqu'un qui n'écoute pas. Mais encore une fois, nous sommes spécifiquement en train de parler sur la façon qu'un mari doit parler envers sa femme. Parce que même si ce passage, dans son contexte, parle de comment on doit se parler les uns aux autres, comment pouvons-nous espérer nous parler les uns les autres de cette façon-là, si on ne met pas déjà cela en pratique dans notre propre famille, les personnes qui nous sont les plus chères, les personnes que nous valorisons le plus, que nous aimons le plus. Comment espérer faire ça envers mon prochain si je ne le fais déjà pas pour ma propre chair et sang, ma propre famille? Il n'est pas logique de prétendre que nous puissions savoir comment bien parler aux autres si on ne commence pas à apprendre à bien parler avec notre propre famille. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de restriction d'âge dans ces passages. Toutes les personnes dans la famille, parents et enfants, doivent renoncer, jeter loin d'eux le mensonge, aucune exception. Le mensonge n'est jamais une solution. Parents et enfants doivent éliminer toute parole mauvaise, choisir de toujours dire la vérité, mais avec amour, toujours rechercher l'édification et non la satisfaction personnelle. Parents et enfants doivent éliminer toutes les mauvaises pensées, choisir de ne rien garder à l'intérieur de soi, que ce qui sort de notre bouche soit également ce qui se trouve dans notre cœur. Ce n'est que le premier point de ce message sur la communication dans le foyer, mais il faut bien commencer en comprenant qu'il nous faut éliminer certaines choses avant de parler sur ce que nous devons intégrer. Comme quand on veut changer une mauvaise habitude. Il faut commencer par réaliser que c'est une mauvaise habitude. Et ensuite vouloir changer cette mauvaise habitude. Et ensuite, pour pouvoir faire ce changement, on doit la remplacer par une bonne habitude. Alors Dieu voulant, nous verrons la semaine prochaine les choses que nous devons intégrer et remplacer toutes ces mauvaises choses que Dieu ait éliminé dans notre langage pour avoir une communion saine dans notre foyer. Permettez-moi de vous lire juste quelques versets de la parole de Dieu pour refléter un peu ce que nous avons vu ce matin par rapport à la communication dans le couple. Et en Jacques chapitre 1, versets 19 et 20 nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, pas prompt à avoir raison, prompt à écouter. » Lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 8, 9 et 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ce n'est pas les évangiles. On ne reprend pas une histoire qui a déjà été dite. C'est un enseignement qu'on revoit, qui revient plusieurs fois à travers les épîtres, à travers les écritures. Même liste des choses qu'on doit renoncer. Pour la même raison, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous avons une nouvelle vie en Christ. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours, pas que votre parole soit quand l'occasion est favorable. Toujours accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous savez ce qu'est la grâce. Des faveurs que nous ne méritons pas. Que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce, que nous puissions dire des choses, montrer de la compassion, de la tendresse, de la douceur. Est-ce que ça n'a rien à voir si l'autre le mérite ou non? Et Romains chapitre 14, verset 19, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et ça va commencer avec la façon qu'on se parle les uns aux autres. Alors, Dieu voulant, on verra les choses que nous pouvons intégrer et les promesses auxquelles on peut s'approprier la semaine prochaine.